Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Il est 8h37, est-ce qu'on a évité le pire? Est-ce qu'on est sorti de la crise financière qui nous menaçait avec le Crédit Suisse, l'intervention de la Banque nationale suisse cette nuit, 50 milliards de lignes de crédit, de trésorerie pour le Crédit Suisse. François, alors on est avec, je présente tout le monde évidemment, Caroline Morisseau, Benoît Abdaïm et François Cholet, président de Montségur Finance. François Cholet, est-ce que vous allez mieux aujourd'hui qu'hier? Est-ce que vous avez eu des sueurs froides?
Alors écoutez, la question est-ce qu'il y avait le feu? La réponse était oui. La preuve en est que c'est cette nuit, au milieu de la nuit, qu'on a eu cette annonce d'une ligne de financement exceptionnelle pour Crédit Suisse. Pourquoi on savait qu'il y avait le feu? C'est que ce dossier, entre guillemets, flambe depuis des mois. C'est pas nouveau. Et il a fallu l'allumette aux États-Unis pour venir montrer que finalement, on pouvait avoir des vraies difficultés.
C'est un lien pour vous?
Oui, parce que la confiance sur le marché intermédiaire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Lorsque vous avez, à un moment donné, le mot risque systémique qui s'allume dans la tête des gérants, et lorsque vous avez un marché interbancaire qui commence à se gripper, on arrive à des choses qui sont parfois extrêmes. Encore une fois, peu de banques françaises avaient de relations directes avec Crédit Suisse, au vu notamment des indicateurs de risque qu'il y avait sur la banque. Évidemment, la bonne gestion fait que les banques françaises ont coupé tous les risques. Mais c'est ça le problème. C'est que le Crédit Suisse, derrière, ne peut pas se refinancer dans des conditions de financement normales et que donc, elle a besoin d'aide, soit de capitaux pour venir rassurer. Et là, on a eu ce message incendiaire de l'actionnaire qui dit « Je ne mettrai pas, après les 4 milliards que je viens de verser, plus d'argent au capital de Crédit Suisse ». Et c'est ça qui a finalement fait cette journée rouge, puisque c'est rouge sur nos écrans et pas noir, sur les marchés financiers, sur le secteur bancaire européen.
Et ce matin, vous allez comment?
On va aller mieux, certainement. Mais il n'empêche que on a quand même plusieurs choses à voir. Un, aux États-Unis, les choses ne sont pas réglées. On s'est aperçu dans cette crise qu'aux États-Unis, vous aviez toutes les banques régionales qui avaient été sous-régulées après les déréglementations de M. Trump, qui aujourd'hui ont dans leur bilan de la dette qui n'a pas toujours été valorisée à la valeur de marché, et ça c'est évident, et qui peuvent poser problème. JP Morgan, ce matin, annonce qu'il va falloir envisager, pour la banque centrale américaine, des lignes de crédit, on ne parle pas de 50 milliards, on parle de 2000. Juste pour donner un ordre d'idée. Parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait que vous n'avez plus de crédit aux États-Unis sur un certain nombre de secteurs. Et donc, on peut avoir un crédit crunch terrible aux États-Unis.
Débat international ce matin, car nous sommes en direct et en duplex depuis Francfort avec Aude Kersulec et depuis Euronext avec Antoine Larigauderie.
Oui, Antoine, on parlait juste avant de revenir sur la question de l'actionnaire de Crédit Suisse avec Benahouda. Antoine, hier, quand même, on a eu une panique sur les banques.
C'est vrai que quand on voit Société Générale perdre plus de 10%, BNP Paribas aussi, on se dit que quelque chose est vraiment en train d'arriver, et quelque chose de très très sérieux. Parce que c'est vrai que ce que François Cholet disait est tout à fait vrai. Il n'y a même pas besoin que théoriquement des banques aient des relations systémiques l'une vis-à-vis de l'autre. Les turbulences de marché et la psychologie font le reste. C'est pas parce que SVB n'a rien à voir avec Crédit Suisse qu'il n'y a pas un véritable rapport. C'est un petit peu comme une rampe de LED dans une cuisine, pardonnez-moi l'exemple, mais il y a un LED qui a une faiblesse, vous allez le changer, vous pouvez être sûr que vous rallumez, il y en a un autre qui tombe en panne. C'est normal, parce qu'il faut que les flux soient constants, que les flux électriques soient constants, et il faut que le marché soit liquide. Et c'est justement pour ça, il faut éviter qu'il y ait des grippages du système interbancaire, vu que tout dépend de tout là-dedans, pour que le marché reste efficient et évite de paniquer. Donc effectivement, l'équilibre est difficile à trouver pour les autorités, pour venir en aide au système financier dès qu'il en a besoin, sans pour autant paniquer tout le monde et provoquer une implosion de tout.
Alors la première LED qui s'est éteinte hier, c'est en Arabie Saoudite, parce que c'est l'actionnaire principal du Crédit Suisse qui dit que bon, s'il faut remettre au pot, moi je ne remettrai pas. Benahouda, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont tout simplement invoqué la réglementation, la régulation, les statuts. S'ils franchissent le seuil des 10%, ça change le statut de cette banque au sein du Crédit Suisse. Et ce qu'il y a d'assez croustillant, c'est de voir comment les médias suisses sont en train de mettre en cause cet actionnaire saoudien lorsque la Banque Centrale Suisse suisse n'a absolument pas bougé pendant 24 heures et qu'il a fallu attendre cette nuit pour qu'elle bouge. Lorsque l'on voit que s'il n'y avait pas les Saoudiens et cette banque saoudienne dont le principal actionnaire est le fonds de souverain saoudien et deuxième actionnaire de cette banque, c'est le fonds souverain du Qatar, s'il n'y avait pas le fonds souverain en gros du Qatar et celui de l'Arabie Saoudite, cette banque aurait disparu, le Crédit Suisse. Et donc dans ce cas-là, il y a une forme d'incompréhension majeure et qu'on voit à travers des médias saoudiens, des réseaux sociaux entre analystes et traders saoudiens qui se disent mais comment on peut nous imputer à nous la responsabilité de la désertion d'investisseurs institutionnels majeurs suisses, européens, américains dans cette banque qui est considérée comme l'une des plus importantes au monde, qui est un risque systémique. Donc de ce point de vue-là, ils ont du mal à avaler le fait qu'on leur impute le fait d'avoir allumé le feu.
La question, c'est où est-ce qu'on a allumé le feu ? Parce que vous disiez, c'est un peu CSVB qui a allumé le feu. Antoine le disait, il y a un côté très psychologique. C'est que là, on est dans une période, avec la hausse des taux, on est très tendu.
Il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui s'est passé aux États-Unis, peu de gens en parlent, n'est pas dans les modèles de risque bancaire.
Ouais.
Pour une raison simple, c'est que vous avez, finalement, je vais caricaturer, vous avez un influenceur.
Ouais.
Il n'est pas sur TikTok, il est sur Twitter, qui dit aux clients, partez.
Retirez-vous.
Et vous avez une banque digitale, et donc les gens qui changent simplement d'application sur leur téléphone mobile et qui vident le compte en 24 heures.
Et tous les fonds d'investissement...
45 milliards, c'est jamais arrivé.
Et beaucoup de fonds d'investissement sur la tech ont fait la même chose. Tous les fonds d'investissement appellent leurs clients pour leur dire, changez de banque.
Ça, c'est quelque chose qui n'est dans aucun modèle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu,
le
régulateur n'a pas prévu qu'il puisse y avoir... Avant, vous aviez une limite physique. Vous alliez retirer avec votre carte bleue au distributeur. C'est des images qu'on avait dans le passé des bank runs. C'est ce qu'on les gens sont portés au guichet. Mais là, c'est pas un guichet. C'est un téléphone portable que vous avez dans votre poche. C'est instantané. Et ça, pour le coup, ça va conduire, je pense, à un changement quelque part dans l'appréhension du risque de bank run du point de vue des banques.
D'où une certaine, pour pas dire une grande incompréhension de la part de nombreux régulateurs, notamment en Europe. Il y a un article très intéressant ce matin dans le Financial Times qui explique que ça fait 15 ans que réunion après réunion, les Américains viennent pour bétonner cette hypothèse-là et que finalement, en quelques heures, ils ont rayé d'un trait de plume ce sur quoi ils travaillent depuis 15 ans dans des réunions ennuyeuses et longues. Donc de ce point de vue-là, de nombreux régulateurs européens, et je me réfère encore une fois à ce papier du Financial Times, estime qu'il y a une incompétence sidérante de la part de l'ensemble des autorités de régulation aux États-Unis, à commencer par la Réserve fédérale de San Francisco.
Caroline Morisseau, quel est l'état des banques françaises ? Est-ce qu'il y a un risque lié au... Si le Crédit Suisse avait fait défaillance, est-ce qu'il y avait des engagements ? Est-ce qu'il y a un risque de système ?
Non. Enfin, il y a quand même des éléments rassurants dans tout ça. On va essayer de voir le verre à moitié plein. D'abord, on n'est plus du tout quand même dans la même situation que 2008. Hein. Les exigences imposées aux banques ont été considérablement renforcées. Donc, nos banques françaises, en tout cas, sont assises quand même sur d'énormes matelas de liquidités. Je vous donnais le chiffre ce matin chez BNP Paribas. C'est 467 milliards d'euros de liquidités qui peuvent être immédiatement disponibles en cas de problème. Au Crédit Agricole, c'est la même chose. Donc, ce qui est arrivé quand même à SVB, c'est-à-dire un banque run, une fuite des dépôts qui l'oblige à brader dans l'urgence ses portefeuilles obligataires, a priori quand même, il n'y a aucune raison que ça n'arrive
je partage
à nos banques françaises.
Oui, évidemment. On a des modèles bancaires qui sont totalement différents et surtout la régulation.
Donc même,
pour le coup, en étant moi-même une entreprise régulée, je peux vous dire que c'est extrêmement précis et fin et que, évidemment, si vous regardez la situation du bilan de SVB...
Mais alors pourquoi des dépôts qui gagneraient nos banques françaises, c'est quand même très improbable.
Alors pourquoi les titres ont perdu plus de 10% hier ? Juste par mimétisme ? Quand on voit Société Générale moins 12, BNP Paribas moins 10, ça n'a rien à voir avec...
C'est des inquiétudes, en fait. Il y a un effet panique, il y a un effet problème de confiance, etc. Et
puis, plus de marché de liquidité interbancaire signifie l'arrêt pur et simple du fonctionnement du système.
Ouais.
Et donc, ça veut dire nécessité d'une intervention de banque centrale. Et pour le coup, là, on éteint le feu sur un sujet. Si ça se propage, les banques ont le premier réflexe habituel, on veut absolument partir de la table de jeu avant d'avoir le problème, et donc elles ferment toutes les lignes de crédit entre elles pour se protéger tout simplement.
C'est pas ce qui s'est passé là.
Non, mais c'est ce qu'on a vécu dans le passé et qui a conduit à la grande crise financière que nous avons connue.
Ouais.
Là, en l'occurrence, on a isolé un cas un peu particulier qui sentait mauvais depuis de nombreux mois, comme je le rappelais. Mais là, on est dans un schéma pour le coup où la crainte, elle est simplement que ça puisse se reproduire sur d'autres banques.
Oui, voilà. Deuxième point rassurant quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Crédit Suisse, c'est un problème qui est quand même identifié depuis hyper longtemps. Ouais. Ça fait des années qu'on sait que cette banque est mal gérée. Ça a été parfaitement identifié, évidemment, par tous les grands établissements français qui ont
provisionné
leurs expositions à Crédit Suisse et qui sont plus directement liés à Crédit
Suisse. Cette fois, la vache à lait saoudienne n'est pas intervenue, contrairement à 2008, entre le prince Walid Ben Talal et Citigroup, lorsqu'on se souvient comment il est arrivé à la rescousse en novembre 2008.
C'est Allez, on repart au Euronext avec Antoine. Antoine Larigauderie.
Oui, non, deux choses. C'est vrai que déjà, il y a un signe très important dont parlait Benahouda. C'est vrai que les Saoudiens et les Qataris sont des actionnaires très importants de Crédit Suisse, sont aussi des clients très importants de Crédit Suisse. Et là, il y avait un signal vraiment très, très négatif. Deuxième chose, juste un rappel, Janet Yellen, avant le week-end, elle n'était absolument pas pour protéger les dépôts chez SVB. Je ne sais pas où on en serait si elle était restée sur sa position. Elle en a changé visiblement à cause des inquiétudes des grands gérants de fonds américains que sont Bill Ackman, notamment, et d'autres. Mais où on en serait aujourd'hui, là, c'est quand même très, très difficile à dire.
Ça nous amène sur le rôle des banques centrales et on va aller justement à Francfort dans un instant retrouver Aude Kersulec, François Chollet. On a quand même des banques centrales qui ne disent rien ou qui disent le contraire et tout d'un coup, elles changent très, très vite d'avis et hop, on intervient et c'est terminé, quoi.
Bah, écoutez, les banques centrales tirent le frein à main depuis maintenant de nombreux mois et c'est vrai qu'on arrive au dérapage. Le dérapage, c'est la crainte que le système de financement bancaire se grippe. On a un peu dérapé aux États-Unis. En Europe, c'est pas encore le cas. Ça va être très intéressant d'écouter Christine Lagarde. Et je ne pense pas du tout qu'elle applique les 50 points de base qui étaient prévus.
Ah, il y a débat marché. Parce qu'on avait Christopher Dembick tout à l'heure qui nous disait 50 points. Hein. Donc François, vous dites
50 points, ce serait un signal de dire, écoutez, il n'y a pas d'histoire. Le système bancaire va mieux que bien.
Ah ouais.
Et je continue sur ma ligne. Sincèrement, ça me paraît
25, elle stresse.
25, elle dit, écoutez, on a déjà le sentiment que la liquidité commence à se réduire. Zéro, c'est un signal de panique, elle ne le fera pas. Donc, voilà. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les trajectoires, d'ailleurs, c'est ce que nous montrent les taux courts à 2 ans, en vérité, qui ont fortement baissé, c'est très impressionnant, depuis maintenant une semaine, ça s'est fait très rapidement. Le taux 2 ans montre bien que, tout a changé dans la façon dont le marché perçoit la suite des hausses de taux du point de vue des banques centrales, d'ailleurs de part et d'autre de l'Atlantique. Ouais.
Ça va être compliqué hein, pour la Banque Centrale Européenne et pour Christine Lagarde. Évidemment, vous pourrez suivre en direct sur BFM Business la conférence de presse de Christine Lagarde, émission spéciale Stéphane Pedrazzi. Aude Kersulec, évidemment, vous êtes déjà sur place à Francfort. On va voir si effectivement elle lâche un peu le frein à main, Christine Lagarde, ou si elle est droite dans ses bottes et qu'elle fait 50 points de base.
En tout cas, c'est sûr que cette réunion va prendre une toute autre tournure que ce à quoi on s'attendait il y a encore une semaine, puisque à l'inflation, vient s'ajouter le risque d'instabilité financière. Mais le problème de l'inflation, il est toujours là. 8,6% en février, ça reste toujours très élevé. Alors, elle s'enracine, c'est une inflation qui s'enracine. C'est pour ça qu'on remonte les taux depuis le mois de juillet pour freiner la demande et la production de crédit. Mais il faut prendre en compte aussi que ça a fragilisé une partie de l'économie, notamment les entreprises de la tech. Alors, on a pu le voir avec ces 3 faillites aux États-Unis la semaine dernière. Le risque sur le Crédit Suisse qui est attaqué par les investisseurs, alors que c'est une banque systémique. On n'est pas sûr de pouvoir absorber le choc. On est dans un risque d'instabilité financière. Or, c'est aussi une des prérogatives des banques centrales. Alors, le Trésor américain a annoncé un programme de liquidité. La Banque nationale suisse aussi hier, comme la Banque centrale européenne arrive plus tard. On attend peut-être un programme de liquidité encore plus important pour prêter aux banques qui en auraient besoin et éviter le bank run. Et la hausse de 50 points de base, eh bien, vous l'avez vu, elle est plus que remise en question. 25 points de base, donc une hausse moins importante ou aussi même une pause. On verra ce que nous dit Christine Lagarde tout à l'heure à 14h45.
Merci beaucoup. Aude Kersulec, qu'on retrouve bien sûr tout au long de la journée. Puis juste Jean-Claude Trichet ce soir, 19h30 chez Edith Chevrillon. Et puis demain matin, 8h15, François Vidal-Gallo sera notre invité. Benahouda Dedaïm.
Et puis on va revenir cette fois-ci aux bonnes vieilles guerres de religion. Vous avez entendu la semaine dernière le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche expliquer que c'est acquis. Il y aura 4 hausses de taux entre mars et juillet et 4 hausses de taux de 50 points de base chacune. Et face à cela, vous avez le gouverneur de la Banque Centrale d'Italie qui expliquait à ses collègues faucons du Conseil des gouverneurs, soyez un peu moins faucons et surtout, n'ayez pas la présomption de pouvoir maîtriser les événements Pour rappel, il y a une guerre aux portes de l'Union européenne. Pour rappel, il y a cette crise bancaire aux États-Unis, et que vous feignez de maîtriser des éléments sur lesquels vous n'avez absolument pas prise. Et donc, au milieu de cela, vous allez avoir Christine Lagarde qui va devoir trouver une solution à mi-chemin entre le gouverneur de la Banque Centrale d'Italie et celui d'Autriche, ce qui va requérir des trésors de diplomatie.
François.
Je voudrais porter un message un peu rassurant. Un, on a appris dans le passé, les banques centrales ont appris, donc elles réagissent plus vite. Deux, elles ont énormément d'outils à disposition pour pouvoir à la fois... je parlais de l'image de freiner l'économie avec la remontée des taux, mais en même temps fournir des liquidités. Donc il n'y a pas à ce stade d'impasse à imaginer. On a tous les outils à disposition auprès de toutes les banques centrales. Tout a été déjà essayé, fait, utilisé et réduit. Donc je n'ai pas
d'inquiétude. On a tous les outils, mais ça peut venir de n'importe où.
Ouais, c'est ça.
Certes, mais la grande crainte, c'est de se retrouver dans un schéma, encore une fois, qu'on a pu connaître, qui était le credit crunch lié au fait qu'on a, dans le secteur interbancaire, l'incapacité de se financer. Et ça, pour le coup, les banques centrales savent aujourd'hui répondre à ce problème.
Ou un manque de confiance de la part des clients. C'est ça aussi le souci, quand même.
Alors, oui.
Même s'il est irrationnel.
Oui, je ne pense pas que les banques que nous avons. Alors, le modèle bancaire français est un peu particulier, puisque c'est de la banque universelle où vous avez du dépôt, de la banque de financement d'investissement, vous avez même de la banque assurance. C'est des modèles qui sont vraiment différents, des modèles qu'on peut connaître aux États-Unis parfois, avec des banques qui sont très spécialisées, même géographiquement spécialisées. Donc, je ne pense pas que ce soit comparable. Il n'empêche, n'oublions pas, les banques centrales sont outillées désormais. Elles ont déjà fait face à des périodes bien plus compliquées que celle-là. Ouais. Et elles ont tous les outils pour demain.
J'ai confiance en Caroline. Caroline, elle est rassurée ce matin.
Non, mais c'est toujours irrationnel, non, Caroline, sur les banques, de toute manière.
C'est irrationnel, mais justement, quand c'est irrationnel, il faut se raccrocher quand même aux fondamentaux. Nos banques françaises, en plus, elles ont quand même des dépôts hyper stables, quoi. Même si les nouvelles technologies, effectivement, font qu'on peut quand même retirer des dépôts plus rapidement, elles sont blindées de liquidités et elles ne sont pas prêtes de vivre un bank run suffisant, en tout cas, même s'il y a défiance. Pour les mettre à...
Bon, Antoine Larigauderie, lui, il est inquiet parce qu'il est à 6 minutes de l'ouverture des marchés. Il y a les 4 sorcières demain. Antoine, on vous souhaite... On va vous donner la parole. On vous donne la parole tout à l'heure dans le journal de 9h. Mais on vous souhaite bon courage parce que les journées doivent être un petit peu remuantes.
On va tenir, hein, oui, effectivement. C'est vrai que c'est quand même très, très agité en ce moment. Moins qu'en 2008, je dois dire. Moins que pendant les périodes de Covid. Non, concernant les banques centrales, il y a peut-être beaucoup plus d'interrogations sur ce que va faire la Fed. Parce que alors là, les anticipations de taux d'intérêt ont diamétralement changé. Juste pour mémoire, Goldman Sachs prévoit désormais que la Fed ne remontera pas ses taux la semaine prochaine et qu'elle pourrait même les baisser avant la fin de l'année avec un taux terminal qui serait du côté des 3,7% au lieu de plus de 5%.
Ça va vite, hein. Merci beaucoup.